France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag des informés également sur le canal 27 de la TNT. Les voilà prêts au saut à la perche de l'actualité, au waterpolo, du scoop, au pentathlon de l'info, hein. Oui, ils sont juste sortis des vestiaires. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Judith Vintraud, bonsoir, du
bonsoir,
Figaro,
Mathieu.
Également l'historien Pascal Blanchard, bonsoir.
Bonsoir.
La communicante Aurélie Motarivet, bonsoir.
Bonsoir.
Et Christophe Alix de Libération, bonsoir.
Bonsoir. Mathieu.
Et ce soir, on parlera de l'ISF transformé en ISI, de la droite qui n'est pas au courant que c'est les vacances. On parlera également d'Emmanuel Macron face au climat. Mais juste avant, nous recevons Philippe Assoulaine. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes, vous, historien spécialiste du sport. Et avec vous, nous allons revenir sur ce qui s'est passé. Vous l'avez vécu sur France Info depuis 18h à Genève cet après-midi. Alors, c'est vrai que, on le sait, Paris a raté les Jeux Olympiques en 1992, en 2008 et en 2012. Là, ça devrait être bon, hein, puisque le CIO a validé l'attribution simultanée donc des Jeux de 2024 et 2028, Paris et Los Angeles. En gros, on est sûr de les avoir, mais on ne sait pas si ce sera dans 7 ou 11 ans. Voilà, il faudra attendre le 13 septembre à Lima, au Pérou, pour savoir qui de Paris donc ou de Los Angeles organisera les Jeux Olympiques en premier. Ça semble incroyable, cette malédiction de Paris autour des Jeux. La dernière fois que Paris les a eu, c'était en 1924. Je crois qu'il s'est passé quelque chose d'inavouable et on ne peut plus entendre parler de cette ville. Une candidature, bien sûr, devenue très politique et portée par Anne Hidalgo et, bien sûr, le président de la République, Emmanuel Macron.
Je pense que nous sommes prêts, que le moment est le bon pour le pays, que nos concitoyens attendent cette candidature et cette victoire pour justement montrer au reste du monde ce que nous sommes capables de faire. Et je pense qu'il y a une attente très forte. Ensuite, c'est le comité qui jugera. Nous, nous sommes prêts pour 2024. Notre volonté, c'est 2024. Il n'y a, je crois, aucune ambiguïté sur ce sujet.
Alors, Emmanuel Macron, donc cet après-midi à Genève, Philippe Assoulaine, pourquoi aujourd'hui on voit cette attribution, enfin qui n'est pas d'ailleurs, il n'y a pas de véritable attribution, elle sera donc le 13 septembre, finalement 2024-2028, pourquoi finalement ça semble si compliqué pour le CIO?
Ça semble si compliqué parce que deux villes veulent avoir les Jeux Olympiques les premiers, c'est une bonne bataille sportive en fait entre Français et Américains, de bonne guerre je dirais. Donc ce combat-là, je trouve qu'il est acceptable. Le combat plutôt de se dire est-ce qu'on doit organiser les Jeux Olympiques ou pas, ça c'est peut-être moins acceptable parce que je pense que c'est une bonne chance de pouvoir les organiser. Et je pense que se poser la question d'organiser les Jeux Olympiques, ça voudrait poser la question est-ce qu'il faut organiser les Jeux Olympiques tous les 4 ans. Donc c'est un mauvais débat parce que les Jeux Olympiques sont quand même ont marqué l'histoire depuis 1896. Et refuser de voir les Jeux Olympiques tous les 4 ans, eh bien, ça serait arrêter l'histoire du sport.
Donc, mais vous savez ce que disent les opposants, finalement. Ils disent, mais est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui? Ça coûte cher, ça va coûter 6 milliards d'euros. Finalement, pourquoi? Pour 15 jours, un moment de sportivité.
Alors, 6 milliards d'euros, mais il y a des retombées. Donc, ça, on le sait. En principe, les retombées seront peut-être même supérieures aux dépenses. Ensuite, 6 milliards, bon, c'est à peu près les dépenses que vont nous coûter la taxe d'habitation, 7 milliards. Donc c'est pas énorme. Et 6 milliards, en fait, les chiffres paraissent toujours exorbitants, mais 6 milliards, si on considère que le revenu moyen d'un Français de 30 000 euros par an, ça se mesurerait en milliers de milliards. Donc 6 milliards, c'est une goutte d'eau. C'est-à-dire, ça représente même pas 50 euros par ménage.
Oui.
C'est pas grand chose. Surtout qu'il y a des retombées économiques. Et surtout, en termes d'image, ça va avoir des retombées très très fortes sur la France.
Alors Christophe Alix, je crois que Libération, vous étiez un peu modéré. Hein. Aujourd'hui, vous aviez dit les Jeux Olympiques, c'est pas gagné.
Non, puis on s'est demandé un petit peu...
Sur l'impact
Voilà, on s'est demandé un petit peu quel était l'impact. Et d'ailleurs, on a fait un dossier assez précis avec le cas de Londres, le cas de Rio. On a rappelé les précédents d'Athènes. Montréal même, qui avait été un fiasco absolu en 76, les Québécois ont remboursé jusqu'en 2006, ils ont fini de rembourser en 2006. Et notamment, ce qu'on a bien vu, c'est que Londres, a priori, était des jeux très bien organisés, un vrai succès populaire, ont permis de développer des quartiers dans le nord de Londres, à Stratford, tout comme il y aura quand même pas mal de choses qui se feront en Seine-Saint-Denis pour les JO. Mais, ces histoires de retombées économiques, c'est extrêmement difficile à chiffrer. L'université de Limoges, qui est spécialisée dans le sport, les chiffre à 10,7 milliards. Donc, effectivement, c'est plus que le budget des Jeux. Et voilà. Et donc, sur cette question précise, qui est quand même une question fondamentale, Est-ce qu'il y a des retombées ou pas? Bah aujourd'hui, c'est très très difficile à dire. En tout cas, pour des villes comme Rio ou ça n'a pas été le cas.
Julie Vintraube.
C'est une question tellement fondamentale que au moins deux villes, Hambourg et Budapest, se sont retirées. Elles avaient été candidates parce que leur population, consultée par référendum, ont jugé que le coût ne valait pas.
D'ailleurs, Paris et Los Angeles étaient les seuls. Enfin, à la fin, vraiment...
Exactement, d'où cette double attribution. On en tient deux, donc on les coince. Et pourquoi est-ce que la France et pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron veut absolument que ce soit la prochaine? Parce que la suivante, quoi qu'il arrive, il ne sera pas là, puisque je rappelle que depuis la révision constitutionnelle, le président français ne peut pas faire plus de deux mandats.
Alors, Pascal Blanchard, c'est vrai que...
C'est pour ça qu'il les vend en 2024.
Historiquement, les Jeux Olympiques, ça a toujours été, depuis le début, finalement, les villes, les pays se sont battus, hein. Pour les organiser, et ça a eu des atouts politiques quand même très forts.
Pas au début. C'est une vraie difficulté. Les trois premiers Jeux Olympiques sont un peu compliqués. Paris l'a en 1900 parce qu'il y a l'exposition universelle et qu'en même temps, c'est une pratique, mais on n'est vraiment pas encore dans une mécanique forte. Saint-Louis, les États-Unis le feront, toute l'Europe, pratiquement les Anglais, les Français n'iront pas par manque de moyens financiers pour leurs sportifs. D'accord. Donc, c'est pas été au début, ça s'est pas tant battu que ça. Il faut attendre l'après-première guerre mondiale pour que ça commence à avoir une dynamique où ça commence à devenir à la fois un signe de puissance, 24 pour Paris. C'est très clairement des Jeux Olympiques où là, la France a sa puissance, 36 pour le Berlin, on le sait, même si ce n'est pas les nazis qui avaient demandé les Jeux Olympiques, ce que tout le monde croit. Hitler en bénéficiera. Tokyo devait faire les Jeux Olympiques en 40. Alors là, c'était vraiment un rapport de force des Japonais. Et ils l'avaient obtenu dans un rapport de force international. On a après connu une vague un peu plus calme, parce que justement, il fallait rentrer dans un monde de la paix, Stockholm et d'autres plus calmes. Mais on voit bien que depuis une vingtaine d'années, les Jeux Olympiques, par exemple, en Chine, ont été clairement totalement politiques. Et là, on essaie de revenir avec une dimension plus sportive, parce qu'il y a aussi, on sait que, on n'en parle pas, mais les dernières villes, ça a été des gouffres financiers absolus. Je vous rappelle quand même que Sochi, ça coûte 12 fois plus cher que ce qui est annoncé dans le dossier déposé au CIO.
Sochi, Pékin.
On ne connaîtra jamais le budget de Pékin. Il faut être très clair. Et on sait tous que les Chinois vont payer pendant extrêmement longtemps. Et là, les retombées très concrète sur Pékin, personne ne le sait, si c'était des retombées diplomatiques.
Plus, les logements sont inhabités.
Enfin, exactement.
Alors, on va continuer à en parler, vous inquiétez pas, Philippe, vous n'êtes pas au milieu d'anti, hein, Jeux Olympiques ici.
On va les aimer aussi, hein, vous allez voir.
Je vais m'inscrire en décalage.
Voilà, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, c'est Agathe Mahuet.
Les 6 républicains qui ont reçu une convocation d'exclusion restent ce soir au sein du parti d'Édouard Philippe à Thierry Solaire. Des responsables pointés du doigt pour leur nouvelle étiquette déconstructif. C'est une commission spéciale qui statuera sur leur sort cet automne. En attendant, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu sont démis de leurs fonctions exécutives au parti Les Républicains. Le dossier GMS à Bercy depuis cet après-midi. Syndicats, repreneurs, constructeurs et ministres, tous réunis pour tenter de fixer une solution pérenne pour l'avenir du site en liquidation judiciaire. Dans une semaine, nouveau passage au tribunal pour l'équipementier de la Creuse. Dans 3 jours, un défilé sur les Champs-Élysées, particulièrement en alerte. Près de 11 000 policiers et gendarmes doivent encadrer ce 14 juillet, forcément particulier, un an tout juste après l'attentat de Nice. Le président américain Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel seront présents, invités par le chef de l'État. La mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, une certitude pour l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui affirme avoir des informations sur la disparition du chef du groupe État islamique. Ce n'est pas le cas de la coalition internationale. Si c'était avéré, en tout cas, ce serait un nouveau coup dur pour Daesh après la chute de Mossoul en Irak. Une 4e étape pour Marcel Kittel sur le Tour de France, pardon, l'Allemand au maillot vert, victorieux à Bergerac. C'est le Britannique Chris Froome qui conserve toutefois le maillot jaune avant les Pyrénées demain. Et puis le tennis avec la fin des espoirs français à Wimbledon. Adrian Manarino éliminé ce soir par Novak Djokovic.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, alors 2024-2028, voilà les dates, hein, au choix pour organiser les Jeux Olympiques à Paris. On sera fixé le 13 septembre à Lima, au Pérou, par le CIO. Aurélie Motard-Rivet, quand on parle des Jeux Olympiques, on parle de, comme l'a dit tout à l'heure Philippe Asselin, c'est sur un pays qui resplendit au niveau communication. On se dit que c'est énorme, c'est toujours le cas. Encore aujourd'hui ?
Oui, je crois. En fait, pardon, je vais être en décalage avec vous tous. Mais moi, j'ai la sensation, au contraire, que c'est un ciment très positif dont les Français ont besoin aujourd'hui. Il me semble, post-attentat, on se souvient tous de la Coupe du Monde 98, alors sans être une fan de foot, il y a eu une émotion politique positive et une émotion partagée à ce moment-là, une forme de fierté nationale. Donc ça, je trouve que c'est un point intéressant. Et au fond, ça s'inscrit complètement dans la stratégie d'Emmanuel Macron, qui est de repositionner la France sur un nouveau ring, dans le rapport de force mondial. Et ce nouveau ring, après celui du climat, on a le ring sportif. Et on aura vendredi, le 14 juillet, qui va être une démonstration, au fond, de puissance française vis-à-vis de Donald Trump. Et donc, je trouve que le rapport, par rapport aux États-Unis notamment, est très intéressant.
Philippe Assouline, est-ce que ça reste quand même toujours un rendez-vous sportif où on voit qu'il y a tellement de puissance économique et politique derrière que c'est aussi un enjeu diplomatique ?
C'est un enjeu diplomatique et c'est aussi et surtout une vitrine. Tous les Jeux Olympiques ont montré que, on parle de 1968, ça a été une vitrine pour le Black Power. Mexico. 1972, ça a été une vitrine pour l'organisation palestinienne, puisqu'il y a eu les attentats de Dominique. Il y a eu 1980-84.
On peut parler de vitrine, oui.
Mais une vitrine, en tout cas pour ceux qui l'ont voulu. Voilà. En 2008, ça a permis de montrer que la Chine était capable d'organiser des Jeux, et ça a donné une bonne image aussi de la Chine en tant que pays organisateur. Donc, je pense que les Jeux Olympiques de 2024 en France, ça pourrait être un moyen de montrer que la France est un pays capable d'assurer une bonne sécurité. On parle beaucoup de sécurité, on parle beaucoup des 600 millions ou plus d'euros qui vont être dépensés pour la sécurité, ce qui est comparé aux 6 milliards de budget, ce qui n'est pas si énorme que ça. Mais je pense qu'au contraire, la France va être capable de montrer sa capacité à assurer la sécurité dans un pays et de montrer au monde entier que c'est un pays où on peut s'y rendre en toute sécurité.
Alors Pascal Blanchard, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a appuyé lors de son audition au CIO sur la sécurité.
C'est la priorité du CIO. On sait très bien qu'une des parties aussi des pays qui a été recommandée, c'est des pays qui sont capables d'assumer, pour ce grand événement sportif, une sécurité maximum. Donc déjà, ça limitait à beaucoup de pays la possibilité d'avoir des dossiers qui répondaient aux nouvelles exigences du CIO. Deuxièmement, je mettrais quand même un petit bémol sur le fait que des pays prouvent à travers ça leur puissance. On sait aussi que des pays peuvent utiliser, et l'Amérique, c'est un vrai débat qui doit exister aujourd'hui, l'Amérique de Trump, comment va-t-elle utiliser ? On sait très bien que Sochi n'ont pas du tout été des jeux qui ont été utilisés par Poutine uniquement pour un esprit pacifiste. Dans la foulée, c'est la Crimée. Je veux dire, comme les Jeux de Berlin qu'on fait. Donc c'est très compliqué la notion d'une puissance à travers les Jeux Olympiques. Ça peut, oui, servir un peuple dans un moment positif de symbiose où la nation est en phase avec un discours politique et avec un instantané du temps. Mais ça peut être exactement l'inverse qui se passe. Les Jeux Olympiques, ça peut être, regardez ce qui s'est passé à Rio, un moment de concentration des forces sociales qui se sont opposées à ce qui s'était fait. Regardez ce qui s'est passé en Chine, ça a empêché l'opposition d'exister, de pouvoir parler. Et regardez ce qui s'est passé à Athènes, on en voit encore les conséquences avec une crise économique, et on sait très bien que l'impact des Jeux représente aujourd'hui une partie du déficit, je crois que c'est 6 milliards pour la Grèce. Alors attention à mythifier, vous avez raison, à partir du moment où il y a une bonne symbiose des choses. C'est pour ça que les Jeux Olympiques doivent être accepté politiquement, tomber à un bon moment, à deux ans près, ça peut être l'inverse, et sur le fond, la réalité économique d'un dossier doit aussi se juger à la manière dont on l'a pensé. Je pense que 600 millions, c'est beaucoup trop peu par rapport au risque de sécurité, de ce que vont être les notions de sécurité.
Aurélie, est arrivé.
Alors, pour répondre à ça, effectivement, c'est un investissement, c'est vrai. Moi, j'ai tendance à penser que ça en vaut la chandelle, parce que c'est un élément très positif pour le moral aussi des Français, donc on peut imaginer qu'il va y avoir un cercle vertueux derrière. Par contre, pour faire plaisir à Judith, sur Emmanuel Macron, là où je la rejoins, c'est que c'est d'abord pour lui une chance. En termes d'image, c'est un levier d'image très positif pour lui, parce qu'il est un peu le symbole politique, finalement, de l'esprit olympique, contrairement d'ailleurs à Emmanuel Macron, qui est dans une logique de repli anti-immigration et qui est beaucoup plus d'ailleurs discret. Vous avez remarqué, en termes de stratégie de communication, on lui a plutôt recommandé d'être discret pour faire gagner Los Angeles. Donc je trouve que c'est intéressant de voir ce rapport. Et ça permet aussi à Jupiter de retomber dans l'arène sportive en réchauffant son image, en ayant un dialogue de proximité. Il est en chef d'équipe aujourd'hui, on l'a vu sur les images.
Alors, Christophe Alix.
Ce qui est intéressant dans le cadre des États-Unis, je crois que ça sort un petit peu du cadre des autres JO, j'ai regardé un petit peu. Les États-Unis, avec leur sens du business, du marketing, etc., sont les seuls à savoir rentabiliser des jeux. Les jeux de 84 à Los Angeles étaient très rentables. Et ceux-là, à mon avis, le seront certainement. Donc vraiment, un argument très fort pour les Américains, c'est l'argument économique. On sait rentabiliser des jeux. L'autre point qui est quand même un petit peu étrange, c'est que le CIO insiste aussi aujourd'hui sur le fait que les jeux puissent permettre de développer des pays et notamment de développer aussi des quartiers défavorisés, des villes qui ne sont pas. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, pour ces impératifs de sécurité, etc., on n'organise pas, et puis aussi peut-être de contrôle de l'argent public, de la corruption, on n'organise pas ou on n'organise plus ou on organisera difficilement des jeux dans des pays émergents, notamment après ce qui s'est passé à Rio. Alors que, bon, c'est quand même aujourd'hui ce genre de ville, peut-être, qui aurait le plus besoin.
Derrière, c'est des quartiers qui ne fonctionnent pas, qui sont abandonnés, post-géo.
Mais les pays émergents en auraient besoin.
Julie Dinantrobe.
C'est ce qu'on espère, en tout cas pour Saint-Denis, puisque, comme vous le disiez, une partie...
Le village olympique sera voilà, en Seine-Saint-Denis.
Et la piscine.
Une grosse partie de l'organisation.
C'est pas que Paris, c'est le 93 aussi, c'est important de le rappeler.
C'est tout à fait important, sauf que... comme au Brésil d'ailleurs, ça peut être à double tranchant. Il y a déjà le Stade de France, les habitants...
au moins, il va servir.
Les habitants de Saint-Denis n'ont pas vu leurs conditions de vie s'améliorer, l'ambiance s'améliorer. On n'a pas vu d'impact direct ou même... peut-être indirect, alors économiquement, je ne sais pas, mais en tout cas sur le quartier, sur la paix sociale et sur la volonté des gens de s'intégrer dans la République, on n'a pas constaté de progrès malgré cette belle réussite.
Les jeux n'ont jamais permis à des gens de s'intégrer dans la République.
Normalement, les jeux sont fédérateurs.
Oui, alors Philippe Asselet,
s'intégrer dans une République, ça peut être...
Le sport fait aussi oublier les enjeux politiques.
S'il vous plaît, on va juste écouter.
Je crois une parenthèse enchantée.
Pas tous ensemble. Philippe Asselet.
Il faut avoir de l'ambition pour ces jeux, mais il ne faut pas non plus penser que ça soit un miracle.
Voilà.
Ça va être.
Il ne faut pas tout attendre, en fait.
Voilà, il ne faut pas tout attendre. Mais ceci étant, c'est vrai que je pense avoir un excellent pouvoir d'ouvrir au rêve, à l'imaginaire, de toutes ces générations qui rêvent. Moi, j'adore le sport en plus, et je suis un grand lecteur de l'équipe. Et je sais que l'équipe, par exemple, pour pas le citer, c'est un journal qui est lu par l'ensemble des classes sociales en France.
Tout à fait, ouais.
Donc, du cadre supérieur à l'ouvrier qui se lève le matin pour aller à l'usine. Donc, ça veut dire que le sport est une valeur qui réunit l'ensemble des citoyens français. Donc, en ouvrant l'imaginaire et le rêve grâce à ces jeux, je pense que toute une génération et toutes les futurs centenaires vont pouvoir vivre cet événement pour les 100 ans des Jeux Olympiques 1924 en France. Et 100 ans plus tard, ça serait presque logique que la France les organise.
En tout cas, économisez déjà, parce que les billets ne seront pas donnés, en tout cas. Merci beaucoup, Philippe Asselet, d'être passé aux Informés de France Info. Je rappelle votre dernier livre, « Les champions juifs dans l'histoire des sportifs face à l'antisémitisme », c'est chez Ivago. Ça.
Juste un petit mot, le titre « Les champions juifs dans l'histoire », c'est surtout pour montrer, en fait, la problématique, c'est l'éveil des corps. Ouais. C'est pas du tout pour mettre en avant les champions juifs, parce que ça serait anecdotique, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Mais c'est pour montrer... pour montrer l'éveil des corps sur un siècle d'histoire.
Merci beaucoup, Philippe Asselet, d'être passé ce soir. Allez, l'info à 20h20, Agathe Mahué.
Il sera dans deux jours à Paris pour le défilé du 14 juillet. Donald Trump, en attendant, toujours bien occupé par ses affaires intérieures. Le fils aîné du président américain reconnaît ce soir avoir volontairement rencontré l'avocate russe qui lui promettait des informations supposées compromettantes sur Hillary Clinton. Rebondissement donc dans cette affaire d'ingérence russe dans la course à la Maison Blanche. L'agresseur de Nathalie Kosciusko-Morizet connaîtra son sort le 7 septembre prochain. Le parquet de Paris requiert aujourd'hui 4 mois de prison avec sursis et une amende de 1 500 € contre Vincent Debrèze, maire d'un village de Normandie. Il avait agressé la candidate sortante aux législatives. Une mise à la diète de l'ensemble des ministères. Voilà comment le gouvernement entend boucler son budget pour cette année 2017. 4,5 milliards d'euros que l'exécutif veut récupérer en réduisant le train de vie à Bercy, au Quai d'Orsay ou encore au ministère de l'Intérieur. Des économies faites sur le fonctionnement, donc avec par exemple une meilleure gestion des voitures officielles. Les résultats du bac 2017 en très légère baisse par rapport à l'année passée. 87,9% de taux de réussite, chiffre officiel publié ce soir par le ministère de l'Éducation après les oraux de rattrapage. Un résultat qui est donc en légère baisse dans toutes les filières générales, technologiques et professionnelles. Et puis deux transferts officialisés ce soir dans le mercato du foot. D'abord le retour de Steve Mandanda à l'OM après son exil à Londres. Le gardien de 32 ans revient dans un club qu'il connaît bien. Et puis c'est aussi à l'Olympique de Marseille arrive l'international Adil Rami, qui joue depuis 2 ans actuellement à Séville.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Judith Vintraub du Figaro, l'historien Pascal Blanchard, la communicante Aurélie Motarivet et Christophe Alix de Libération. Alors selon des chercheurs américains et mexicains, les espèces de vertébrés reculent de manière significative sur Terre. C'est une extinction de masse qui s'accélère. Et les premières espèces touchées par ce phénomène se nomment le PS et les Républicains, puisque ces derniers ne profitent absolument pas de la trêve estivale pour réfléchir. Non, ils se déchirent, mais par petits bouts. En effet, ce week-end, c'était acté. Les constructifs, vous savez, ces Républicains pro-gouvernement allait être exclu du parti. C'était fini, qu'il se débrouille, c'est fait long, suffit la fronde. Et puis aujourd'hui, bah, réunis en bureau politique, les choses se sont avérées un peu plus compliquées, voire différentes, puisque finalement, il n'y aura aucune exclusion, juste quelques suspensions. Même le Premier ministre garde son adhésion chez les Républicains. Tout est tranquillou, sauf pour Nadine Morano.
Les Républicains, c'est un parti de la droite et du centre. Moi, je suis parfaitement dans l'ADN de ma famille politique, historiquement. Et ceux qui veulent entraîner les Républicains dans un parti de droite identitaire ne sont pas membres des Républicains. À ce moment-là, j'ai qu'à leur dire, vous avez qu'à aller au Front National, ils vous tendront les bras, ils seront ravis de vous accueillir. Ce n'est pas à ce bureau politique provisoire et intérimaire de dire que ceux qui ne sont pas sur la même ligne que la ligne identitaire doivent être exclus. Tout ça n'a pas de sens. Vous savez, quand on cherche à exclure, quand on cherche à se fermer, c'est qu'en général, on termine dans une cabine téléphonique.
Voilà, Thierry Soler, hein, et non pas de Nadine Morano. Enfin, les deux, voilà, on aurait pu changer de voix. On ne sait plus avec ces histoires aujourd'hui de clones, hein. Bref. Judith Vintraub, pourquoi finalement, ce soir, ce revirement? Pourquoi tout simplement ne pas, en effet, exclure, comme il en était prévu ce week-end?
Mais pourquoi prendre une décision claire et ne mécontenter que la moitié des membres du parti, alors qu'on peut ne pas prendre de décision ou prendre une décision ambiguë et mécontenter tout le monde? Les Républicains, comme on pouvait s'y attendre, ont fait le deuxième choix. C'est-à-dire que les gens, car évidemment, ils partaient divisés, vous faites comme si le bloc...
Bien sûr.
Existait encore, et si en plus il avait une position commune, certains voulaient l'exclusion, d'autres faisaient remarquer, non sans recueillir un certain écho, que les sénatoriales se passent en septembre, que beaucoup de sénateurs de droite et du centre sont tentés de prendre leur clic et leur claque, et si on leur offre un havre, si on leur offre un foyer qui s'appellerait par exemple les constructifs, eh bien ils partiront d'autant plus vite. Or, la droite est majoritaire dans le Sénat sortant, donc ce serait embêtant quand même de perdre cette majorité. Donc il y a des tas de raisons qui font qu'il est important de ne rien décider comme d'habitude.
Pascal Blanchard, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a souvent comme ça des provocations, et puis finalement qui ne sont pas suivies d'effets. On se souvient notamment de la semaine dernière, sur le vote de confiance.
Oui, justement, c'est ça qui doit être en train d'être un véritable calcul. En gros, pour faire simple, ils ont une masse de militants qui sont plutôt pour durcir le ton. On voit bien que Wauquiez peut largement aujourd'hui gagner si avec les militants, et je pense que le calcul est assez périlleux.
D'autant qu'il n'a pas d'adversaire.
Donc. Il n'a pas d'adversaire, ils sont tous en train de tomber comme des mouches. Et à côté, il y a une majorité d'élus déjà à l'Assemblée nationale, et certainement au Sénat, qui ne sont pas du tout dans cette tendance. Alors, je rappelle que 75% de ceux qui ne sont pas du tout constructifs n'ont quand même pas voté.
Voilà, ils ont voté, voilà, ce sont abstenus lors du vote de confiance.
Ils sont restés, alors c'est très ambigu. Dans le parti qui serait super dur, il y a déjà 75% qui n'ont pas envie d'être super dur. Les autres ont décidé de ne plus être durs du tout et de plutôt être pro-macroniste. Mais donc, ils se retrouvent avec quand même une tête du parti, des têtes élues. Les élus, contrairement, et je pense que le Sénat, ça va être à peu près la même tendance, on va dire les trois quarts, sont a priori pas du tout d'accord avec ça. Donc ils se retrouvent avec un parti qui est déjà coupé en deux entre ses adhérents et ses élus, avec une tête pensante. Et je pense que les deux mots provisoires et intermittentes pour parler et intérimaire du parti aujourd'hui, c'est vachement intéressant parce qu'il y a bientôt, je pense aussi, un cas juridique qui va se poser. En quoi ceux qui dirigent aujourd'hui les Républicains sont légitimes? Ils sont légitimes de quoi? Donc tout ça est un immense pagaille. Qui va exclure qui? Vraiment, vous allez voir que c'est les autres qui vont se faire exclure.
Oui, c'est par les autres.
Et ben oui, c'est ça qui va être intéressant.
Donc à la fin, ils vont disparaître.
Ils vont tous disparaître. Ça, c'est comme le Parti socialiste, on est tranquille.
Une petite anecdote. Moi, Thierry Soler, qui est tellement procédurier et tellement soucieux du respect des règles, me fait beaucoup rire parce que je me rappelle qu'il était censé avoir été exclu, vous savez, quand il s'était présenté aux législatives et qu'il avait vaincu Claude Guéant, qui était ami de Sarkozy, et investi par la droite. Et puis un jour, il a été réintégré. Alors il a dit, c'est sympa de me réintégrer, mais vous avez juste oublié de m'exclure.
D'accord. Aurélie Motarivé, c'est vrai que là, ça devient compliqué quand même suivre. J'avoue que même nous, c'est compliqué à écrire et à en discuter, mais voilà, nos auditeurs, c'est un peu confus.
Ce qui est pathétique, c'est que les Français s'en foutent de tout ça. Enfin, je crois que ces histoires de chapelle, c'est terrible. Hein. Ouais. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient été totalement ringardisés le soir de l'élection présidentielle.
Et pourtant, c'est le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale.
Ils sont en état de sidération, et d'ailleurs, c'est pas que les Républicains, c'est tous les partis traditionnels, ça s'applique pas qu'aux Républicains. Donc, il est grand temps de travailler sur une émotion positive qu'on proposerait aux Français, ce serait pas mal plutôt, il me semble, hein, ça serait intéressant. Et puis, plutôt que le temps des purges, moi je dirais que c'est un peu le temps des cerises. La droite et la gauche sont sur le noyau, il va falloir mettre de la chair autour. Ils se sont tout fait piquer par Emmanuel Macron, le corpus idéologique, les nouveaux outils, nouvelle génération, la société civile. Donc, il est grand temps de proposer un projet positif aux Français.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant. On parlera également de cette réforme de l'ISF et des autres réformes, puisqu'il faut faire des économies. Et eh bien, l'addition s'avère salée. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Vous savez que l'argent ne fait pas tout. Vous souhaitez juste qu'il en fasse plus.
La financière de l'échiquier prend soin de votre épargne. Parlez-en à votre conseiller. La financière de l'échiquier, des valeurs à partager.
La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain.
Il y a des magasins, leurs promos travaux d'été, c'est du bricolage. Et puis, il y a La Paire, avec ses remises qui décapent.
Jusqu'au 7 août, c'est l'opération travaux d'été chez La Paire, avec par exemple jusqu'à 25% de remise sur les fenêtres bois.
Moins 25% sur les fenêtres bois. La Paire, forcément, il n'y en a pas deux.
La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Exactement, on commence par le soleil. On le trouve en Corse, autour de la Méditerranée, sur la côte aquitaine aussi. On a des éclaircies assez belles, du sud-ouest et de la vallée du Rhône jusqu'aux Charentes, au Berry, au sud de la Bourgogne. Plus au nord, avantage pour les nuages, quelques averses, parfois un orage entre la Lorraine, l'Alsace, le Jura, les Alpes. De nouvelles pluies à bord de la Bretagne et la Normandie, poussées par un vent de sud-ouest jusqu'à 60 km à l'heure. Demain matin, on retrouvera cette perturbation sur la moitié nord, avec des pluies plus marqué au nord de la Seine, près des frontières du Nord aussi. Côté thermomètre, c'est globalement de saison cet après-midi. Seulement 19 degrés à Cherbourg et Boulogne-sur-Mer, 23 à Angers, à Nancy, 24 degrés à Paris, 27 à Bergerac, 28 à Toulouse et Grenoble, jusqu'à 33 degrés à Avignon et Ajaccio. Demain, ça baissera un peu, sauf dans le sud-est, ce sera chaud, 28 à 37 degrés.
Imagine des avenues et des façades monumentales qui rivalisent d'audace dans une grande leçon d'histoire. Strasbourg et sa ville impériale classées deux fois à l'UNESCO. Strasbourg, t'imagines même pas.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Maxime Fayolle, bonsoir.
Bonsoir. Les six personnes mises en cause dans le volet financier de l'affaire Karachi iront bien en correctionnel. La Cour de cassation ordonne leur renvoi aujourd'hui. Le soupçon porte sur des commissions occultes qui proviennent de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur. C'était en 1995. L'attentat de Karachi, lui, a eu lieu en 2002. Il a coûté la vie à 15 personnes. Sandrine Leclerc est la fille de l'une des victimes. Elle espère que ce procès conduira enfin à la vérité, 15 ans après le drame.
Ah, c'est un soulagement et puis c'est l'impression que les choses avancent de nouveau. C'est long, c'est très long, 15 ans sans connaître la vérité sur la mort de nos proches. On a toujours quand même gardé confiance en la justice. On sait également qu'on a des avocats qui se battent à nos côtés. Et donc c'est pour ça qu'on a toujours tenu bon et qu'on a gardé l'espoir. Et maintenant on est vraiment très impatiente d'arriver justement devant le tribunal correctionnel et de pouvoir se tenir devant eux. Je crois que c'est sûrement au travers des témoignages et des débats qui auront lieu au tribunal qu'on pourra toucher du doigt la vérité et aussi qu'il y ait ces personnes qui sont mises en examen, qu'elles soient punies, hein, parce que la vérité c'est une chose, mais en France la justice c'est aussi des sanctions quand on est jugé coupable et on attend ça également derrière.
Il n'y aura pas d'exclusion chez les Républicains, du moins pas tout de suite. C'est une commission spéciale qui devra se pencher sur le cas des membres du parti jugés trop proches de La République En Marche. En attendant, les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu sont suspendus de leurs fonctions exécutives au sein du parti. On apprend par ailleurs que le nouveau président des Républicains sera élu les 10 et 17 décembre prochains. L'agresseur de Nathalie Kosciusko-Morizet, lui, est passé devant le tribunal correctionnel aujourd'hui. Le parquet requiert 4 mois de prison avec sursis et 1500 euros d'amende. L'homme avait bousculé la candidate dans la 11e circonscription de Paris sur un marché il y a quelques semaines. La candidate avait alors perdu connaissance après cette altercation. Près de 11 000 forces de l'ordre seront déployées à Paris pour le 14 juillet, une fête nationale sous haute surveillance. Il y aura le président américain Donald Trump qui sera présent pour le défilé militaire sur les Champs-Élysées. Un feu d'artifice sera tiré, lui, depuis le Champ de Mars en soirée. Là encore, sous haute surveillance, près de 200 policiers et gendarmes et près de 300 agents de sécurité privée seront présents. C'était quasi acté, en tout cas très attendu, et c'est désormais sûr. Paris aura bien les Jeux Olympiques. La seule question qui demeure, c'est quand, 2024 ou 2028, car Los Angeles aura également ses Jeux Olympiques. Le CIO a décidé aujourd'hui à l'unanimité la double attribution des Jeux. Il faudra maintenant un accord entre toutes les parties pour décider de la date. À Wimbledon, c'est terminé pour les Français. Adrian Manarino n'a pas fait le poids aujourd'hui face à Novak Djokovic pour son 8e de finale. Défaite en 3-7 pour le Français. français. Il est 20h33 sur France Info. Tout de suite, la suite des informés avec Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils ont slalomé à travers les orages, ils ont réussi à trouver la caverne d'Ali Baba de l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Judith Vintraub du Figaro, l'historien Pascal Blanchard, la communicante Aurélie Motta-Rivet et Christophe Alix de Libération. Nous sommes en train de parler de ce qui se passe chez les Républicains, où c'est un peu un cafouillis, où on n'exclut pas encore, on suspend, mais pas tout le monde, surtout pas le Premier ministre. Ni Bruno Le Maire. Christophe Alix, pourquoi ça semble si compliqué pour les Républicains d'être dans l'opposition? Parce qu'il y a certaines mesures du gouvernement Macron qui leur plaisent trop? C'est ça?
Oui, en même temps, y a, sur certains points, il y a une forme d'opposition. Par exemple, on commence à parler un petit peu de la situation budgétaire, etc. Il y a des choses qui peuvent peut-être se cristalliser un petit peu autour d'opposition, d'ailleurs qu'on peut trouver aussi bien à gauche qu'à droite. Hein.
On souvient
parler après de l'ISF.
On se souvient de Bruno Le Maire pendant la CSG, pendant les primaires, qui était contre son augmentation, voilà. Et maintenant qu'il va devoir la défendre. Hein.
Donc voilà, en même temps, la difficulté la plus grande, ça va être est-ce que Macron notamment va réussir sur le plan économique en faisant un certain nombre de réformes, à accélérer un peu la croissance en France, ou est-ce que il sera plus ou moins dans une situation échec? Je crois que de cette situation aussi dépendra les arguments que pourront avoir ou pas les Républicains pour le contrer.
Alors, juste une chose, Pascal Blanchard, par rapport à cet homme qui cristallise aujourd'hui tout ce qui se passe, on le voit peu en ce moment, il parle peu, c'est Laurent Wauquiez, qui pourrait prendre, bon, peut-être au mois de décembre, la tête de ce parti. Voilà, pourrait être dans le niveau conditionnel. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, le fait que les Républicains élisent peut-être Laurent Wauquiez?
C'est l'effet des années Sarkozy, doublé des quelques années Fillon en termes de montée en puissance de Fillon avec Sens commun. C'est un durcissement d'un noyau dur de militants qui, quelque part, sont beaucoup plus d'ailleurs intéressés par des questions identitaires que des questions économiques. Au niveau, je parle bien des militants, ceux qui ont payé leur cotisation, alors ceux qui voteront, 2016-2017, je vous parle pas de ceux qui étaient là en 2012-2013, qui sont partis ou qui ont rejoint Macron depuis. Ceux qui continuent à payer leur cotise, qui sont sur le terrain, qui comptent voter, ils se sont durcis idéologiquement en 15 ans. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur des berges qui ne sont pas celles du Front National parce que leur parcours est gaulliste ou néo-gaullisme. Ils sont arrivés sur un discours où l'identité est devenue un sujet majeur. Alors c'est pour ça qu'ils ont fait la candidature et la victoire de Fillon. C'est eux qui portent le parti en termes de militants aujourd'hui, donc très éloignés très souvent des élus, qui ont un discours qui est tout à fait structuré. Ils savent très bien d'où ils viennent avec Sens commun. Ils savent très bien qu'ils pourraient être d'accord avec le FN sans être au FN, ce qui est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que leur idée, c'est de dire il y a une droite nationale dans ce pays. Le FN, c'est le FN. Nous, on est ce qu'on est. On pourrait passer alliance. Et ce qu'on est, c'est pas Macron. Et ces gens-là, ils y croient profondément. Et Wauquiez symbolise ça, l'alliance possible tout en gardant son identité. Ce qui est un rêve. La France a déjà connu ça. C'était le Front de la Liberté en 37 pour faire tomber Blum. La droite nationale classique à voter avec l'extrême du PPF de Doriot. Rigolez pas, hein. C'était les élections 37-38. Ça fait toujours rire de dire que la droite et l'extrême droite passent alliance. Là, c'était des candidats uniques pour faire tomber Blum le juif.
Oui.
Et ça a fonctionné parce que les militants de droite étaient devenus simplement durs avec les ligues, ce qui se passait en France et la haine de l'autre.
Alors, Gilles Vintraub, justement, vous, pour le Figaro, vous suivez justement la droite française. Est-ce que vous avez l'impression, en effet, que cette droite, finalement, chiracienne a disparu aujourd'hui? Elle n'existe plus, elle est en miettes et on n'est plus que sûr, justement, des militants qui s'intéressent davantage à l'identité qu'à l'économie?
Non. Alors, c'est faux de dire que les militants s'intéressent davantage à l'identité qu'à l'économie. Simplement, ils veulent qu'on s'intéresse à l'identité. Je vous rappelle que Laurent Wauquiez est loin d'être le seul à avoir le monopole de ces sujets. Un certain Manuel Valls avait parlé d'insécurité culturelle. Même Emmanuel Macron, d'ailleurs, a reconnu son existence. Emmanuel Macron, pour l'instant, tient un discours extrêmement ambigu. Dans l'interview qu'il a accordée à plusieurs quotidiens européens, dont Le Figaro, il parlait du communautarisme qu'il voulait combattre. Il parlait du terrorisme islamiste en nommant les choses. Il ne l'a jamais fait pour l'instant à l'oral. Donc,
est-ce que pour vous aujourd'hui,
on a l'impression qu'il hésite entre les deux positions. En tout cas, électoralement, il a plutôt caressé dans le sens du poil les communautés. Il a plutôt tenu un discours communautariste.
Est-ce que pour vous, à droite, ça veut dire que c'est un chemin déblayé pour Laurent Wauquiez, tout simplement? Est-ce que c'est le seul?
C'est le seul. Déjà, faute d'adversaire, parce que on a vu Xavier Bertrand dire qu'il devait mener d'autres combats dans une interview absolument incendiaire. Oui. où il a flingué à tout va, y compris sur les 35 heures, alors qu'il est le ministre qui a mis en place l'usine à gaz, qui a permis de ne pas se débarrasser une fois pour toutes des 35 heures. J'ai trouvé ça un peu gonflé, alors, peu importe. Le parti, non merci. En revanche, Valérie Pécresse, elle serait tellement formidable. Mm. Et Valérie Pécresse, elle a dit, t'es bien gentil, Xavier, de ce cadeau totalement empoisonné. Et pour ne pas avoir l'air de ne rien faire, parce que c'est toujours embêtant de refuser quand on vous sollicite, elle a créé son propre groupuscule.
Voilà, groupuscule carrément. Henri Motarivet, pour vous, aujourd'hui, quand vous regardez les Républicains, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne peut être que Laurent Wauquiez. C'est-à-dire qu'il ne peut plus exister aujourd'hui d'alternative à quelqu'un qui est plutôt dur, quand je parlais de droite chiracienne. Voilà, tout simplement. Pour vous, elle existe encore, d'ailleurs, cette droite ou pas?
Moi, je crois que ce qui est intéressant à regarder ici, c'est l'effet psychologique Macron. Je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais... En fait, il a donné des ailes à beaucoup. Peut-être qu'il n'osait pas en parler de Valérie Pécresse. C'est intéressant, je trouve. On parle de solaire.
Mais
je trouve que c'est intéressant parce que quelque part, en fait, on a l'impression qu'avec Emmanuel Macron, tout devient enfin possible, pour reprendre un slogan sarkozyste. Et on peut être demain un élu, on peut être un député. Donc je crois qu'il y a une espèce de dynamique aussi positive et un élan qui donne des ailes à certains. Donc ça, je trouve ça pas inintéressant. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un mal pour un bien, finalement, cette traversée du désert, parce qu'on n'a pas d'autre option que de se réinventer.
Christophe Alix, c'est ça aussi, c'est sur le logiciel aujourd'hui, que ce soit le PS ou les Républicains. Hier, on avait François Calfon du Parti Socialiste ici qui disait, il va falloir aujourd'hui rénover son logiciel. C'est exactement le même langage que les Républicains.
Généralement, quand ils disent ça, c'est qu'ils sont morts.
Hein. C'est ça, vous savez pas.
Ils constatent qu'il faudrait rénover, c'est qu'ils sont déjà finis.
Et puis comme tout le monde a du mal à redémarrer l'ordinateur.
Et la question est quand même, il va falloir voir quand même ce que va donner le quinquennat Emmanuel Macron dans quelques années. Mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un jour, je ne sais pas, une sorte de retour de ce qu'était le RPR dans les années 70, c'est quand même un parti dur, identitaire par certains côtés, anti-européen, qu'on se rappelle quand Chirac avait claqué la porte contre Giscard, et puis à gauche aussi de tendance, une plus Mélenchon et une plus... donc est-ce qu'on va pas, malgré le fait qu'on ait ce noyau central autour de Macron, finir par réavoir à côté de ça de droite, de gauche,
Dans un instant, on va parler économie, justement, et il faut les trouver, ces économies. L'info à 20h40, c'est Agathe Mahut.
Pas d'exclusion, finalement, pour les membres des Républicains jugés aujourd'hui trop proches d'Emmanuel Macron. Le bureau politique du parti complique sa formule et veut en passer par une commission spéciale, une commission qui auditionnera ses constructifs à l'automne. En attendant, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu sont démis de leurs fonctions exécutives au sein du parti LR. Paris et Los Angeles auront toutes deux leurs Jeux Olympiques. Reste à savoir quand, 2024 ou 2028. Le CIO, ce soir en tout cas, a validé le principe d'une double attribution. Pour le reste, rendez-vous en septembre à Lima. Une victoire judiciaire pour Karim Benzema. Le footballeur obtient gain de cause devant la Cour de cassation dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. La procédure dans laquelle l'attaquant star du Real Madrid est mise en examen pourrait être en effet bientôt annulée. Le gouvernement réclame aux opérateurs mobiles la 4G partout en France d'ici 3 ans. Il faut accélérer le déploiement des réseaux fixes et mobiles. C'est ce que demande Jacques Mézard, le ministre de la cohésion des territoires, qui parle d'une fracture numérique aujourd'hui en France, un véritable enjeu national selon lui. Et puis c'est donc Marcel Kittel qui remporte la 10e étape du Tour de France, l'Allemand porteur du maillot vert, victorieux à Bergerac. Malgré une longue échappée aujourd'hui pour deux Français qui ont été rattrapés dans les tout derniers kilomètres, c'est Chris Froome encore et toujours qui conserve le maillot jaune. Demain, direction les Pyrénées.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, et on le sait, depuis son élection, Emmanuel Macron oblige à revoir beaucoup de choses. Les observateurs politiques sont obligés de refaire tout leur carnet d'adresses. Le grand public découvre que Blanquer et Pénicaud ne sont pas les noms des profs de maths et de français de leur enfant, mais bien des ministres. Et les journalistes tentent d'être dans le coup. Par exemple, le journal La Tribune, qui a lancé ce titre, « Macron va-t-il faire une réforme de l'ISF de gauche ?» Alors là, Je vois pas, en fait, hein, parce que ISF de gauche. Alors, la gauche a créé l'ISF, la droite veut souvent la supprimer. Alors, le reste, j'avoue, je ne sais pas trop. Parce qu'en tout cas, chose de campagne, chose promise, Emmanuel Macron va donc changer l'impôt sur la fortune en IFI, hein, impôt sur la fortune immobilière, dès 2018. Il souhaite que l'ISF soit modifié pour ne taxer que les biens immobiliers et pas l'argent qui est investi dans les entreprises, notamment. Un impôt qui touchera moins de monde et qui relance l'intérêt de cette taxe. Mais tout ça met un peu le foutoir dans la politique fiscale du gouvernement. Olivier Faure, il est président du groupe socialiste Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale.
La difficulté, c'est que nous sommes en permanence face à un gouvernement qui avance masqué, caché, qui ne déclare jamais complètement ses intentions, que nous découvrons au fur et à mesure. En réalité, soit ils ne sont pas prêts, ce qui est une possibilité, soit ils ne veulent pas dire ce qu'ils seront amenés à faire demain.
Voilà, le président du groupe Nouvelle Gauche, en fait, c'est le Parti Socialiste, l'Assemblée Nationale, Olivier Faure. Alors, justement, Aurélie Motarivet, quand on parle de l'ISF, ça concerne moins de monde. Est-ce que finalement, il y a une tentation de vouloir supprimer l'ISF chez Emmanuel Macron?
Je vais revenir à votre question, mais ouais. D'abord, je crois qu'il est important de rappeler qu'Emmanuel Macron, vous l'avez un peu dit, a sauvé in extremis le contrat de confiance avec les Français. Pourquoi ? Parce qu'on a deux éléments intéressants en termes de communication et très émotionnels. Le ras-le-bol fiscal, vous l'avez dit, et le ras-le-bol des promesses non tenues. Et on n'est pas passé très très loin d'une forme de rupture sur
ce
point-là.
Ça a été très proche.
Ça a été très très proche.
C'est le Premier ministre qui l'avait annoncé.
Voilà, ouais, c'est ça. Donc est-ce que le Premier ministre a fait un ballon d'essai ou est-ce qu'il aura... est-ce que c'était un jeu de rôle, grand débat
alors,
autour de cette table ?
Alors justement, on va en parler dans un instant. On va parler dans un instant, mais juste...
L'avenir nous le dira.
Juste pour vous...
Suffit de les écouter.
Alors justement, pour vous, est-ce que Emmanuel Macron souhaite supprimer l'ISF ? Ou alors ils souhaitent le réformer au maximum finalement, parce que certains disent oui, bah, l'ISF aujourd'hui est réformé, ça touchera plus grand monde.
En fait, je crois qu'il fait simplement de la diplomatie fiscale.
Il fait beaucoup de diplomatie, voilà.
Ça s'inscrit complètement dans sa logique d'ouverture sur le monde pro-business, et il envoie un message très clair d'attractivité aux Français, notamment en contexte plein Brexit. En plein Brexit, c'est les Français qui sont expatriés à Londres, les dirigeants d'entreprises à Londres, venez chez nous. Voilà, c'est très basique. Le message, c'est celui-là, je pense.
Julie Vintraube.
Oui, c'est évidemment une politique pro-investissement. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ce sont les classes moyennes qui vont payer plein pot, et notamment les retraités de classe moyenne. Alors eux, pour peu qu'ils aient le malheur d'avoir une résidence,
non, c'est pas vrai.
Même s'ils sont exonérés, et si je peux finir, eux ne retrouveront pas, en termes de diminution de leur cotisation salariale, puisqu'ils ne travaillent pas, l'augmentation de la CSG. Donc il y a vraiment, on voit très clairement les cibles, malgré les allers-retours d'Emmanuel Macron. Aurélie disait, l'avenir dira si c'était un jeu de rôle, mais pas du tout. Il suffit d'écouter ce que disait Édouard Philippe au moment du séminaire à Nancy, que certes, les promesses allaient être tenues, mais qu'il fallait voir le calendrier. Qu'est-ce que c'était sinon l'amorce du report qu'il a ensuite annoncé en déclaration de politique générale. C'est
alors,
exactement
Judith,
ça, en déclaration de politique. Et qu'Emmanuel Macron a démenti ensuite.
Pascal Blanchard. Alors,
là, je ne suis pas d'accord, c'est que si on regarde... c'est quand même, c'est drôle que je réponde l'ISF, ça va être un grand moment d'histoire pour moi. Mais...
qui n'existe nulle part ailleurs. Hein.
C'est, tout à fait, mais c'est faux techniquement ce que vous venez de dire. Ah. Parce que ceux qui sont taxés sur le patrimoine vont toujours être taxés sur le patrimoine. Mmh. La question, l'idée de Macron est très simple là-dessus, c'est de dire tous ceux qui investissent dans le monde des entreprises, on ne doit plus rentrer dans l'assiette du calcul leur investissement autre qu'immobilier. Ça ne veut pas dire que ceux
c'est
qui sont...
Attendez, alors, vous m'avez mal compris, hein. C'est exactement ce que j'ai dit.
Ça veut dire que quelqu'un qui payait déjà l'impôt parce qu'il avait 100% de sa fortune en immobilier paiera la même somme demain. Donc il n'y aura pas d'appauvrissement, blablabla, il n'y en a pas. C'est la même somme qu'ils paieront. Par contre, ceux qui avaient 50% d'investissement dans les entreprises et 50% dans l'immobilier paieront techniquement 50% au moins demain. Ça veut dire quoi techniquement ? Qu'en gros, 2 milliards d'impôts sur l'ISF au moins vont être payés par rapport à des gens qui investissent dans le monde de l'entreprise, qui investissent dans l'art, par exemple, qui investissent dans les nouvelles technologies. Et il y a une logique à dire dessus, on ne taxe pas de la même manière l'argent qui dort de l'argent qui vit. Je trouve que cette idée...
Pardon ? La fameuse rente.
Voilà. Je trouve que l'idée, sur le fond, alors après on peut débattre, est-ce qu'on devrait augmenter plus ? Moi j'aurais été pour doubler l'ISF sur l'immobilier, pour garder le même impôt, parce que ça, c'est mon principe de gauche. Par contre, je trouve très bonne idée, principe de droite, qu'il faut que l'argent qui circule et qui crée de l'emploi ne soit pas taxé. Je trouve qu'il y a donc une demi-mesure, en fait, dans la décision Macron, je la trouve bonne, d'une certaine manière pour défiscaliser ce qui est ailleurs dans l'immobilier. Par contre, je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas gardé en fin de compte la même assiette globale en volume.
Alors, justement, Christophe Alix, quand même, on sait que l'ISF, l'ISF, ça rapporte donc 5 milliards à la France. C'est pas, c'est énorme parce qu'on voit les Jeux Olympiques, ça coûte 6 milliards. Hein, donc,
bien
par exemple,
sûr.
Mais voilà.
Enfin, c'est le trou de la France, c'est le déficit, c'est pas rien du tout.
Voilà, non, mais bien sûr. Mais pourtant, on se dit toujours, on se souvient, par exemple, pendant les primaires de droite, tous les candidats étaient pour la suppression de l'ISF. Ça reste à droite et à gauche un symbole, quand même, mine de rien, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut y toucher facilement?
Ça reste un marqueur politique fort. Et d'ailleurs, la preuve, Emmanuel Macron, voilà, joue aussi sur ce pendant. Il est, il essaye de trouver une ligne entre, justement, non, je refuse de taxer l'investissement productif, mais oui, je vais taxer la rente. Alors que, bon, souvent à droite, on accuse la droite régulièrement d'être du côté, éventuellement, des rentiers, des retraités, des gens qui...
Des propriétaires.
Des propriétaires, des épargnants, etc.
On parle de rente, quand on parle de résidence.
Quand on parle sur ce point-là, on a une espèce de clivage idéologique qui est très lointain. L'autre petit point à souligner, et la matière fiscale est extraordinairement peut être extraordinairement complexe, compliquée, et comme le disent toujours tous les fiscalistes, le diable se cache dans les détails, c'est que séparé d'un côté...
J'en vois pas souvent de fiscalistes, je vous le dis. J'en vois pas souvent de fiscalistes, ouais, c'est pour ça que c'est bien. Non, mais je leur dirai ça la prochaine fois.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'inventivité fiscale à Bercy. C'est pas très facile, c'est pas très facile, en tout cas pour une partie, de séparer ce qui serait non productif du côté de la rente, côté de l'immobilier, de l'autre côté de l'investissement productif. Et donc il y a tout un circuit de placements financiers, d'investissements qui sont liés à l'immobilier, qui sont liés à l'immobilier d'entreprise. Et là-dessus aussi, il va falloir voir où ils vont mettre le curseur, parce que c'est assez compliqué finalement. Alors, de savoir on va rentrer dans cette question
pratique,
de qu'est-ce qu'on taxe dans l'immobilier.
Trop, parce que ce que disait tout à l'heure Aurélie Mottarivet, c'est vrai, sur le Premier ministre lors de son discours finalement de politique générale, qui avait dit l'ISF ça sera 2019,
la CSG c'est tout de suite,
taxe d'habitation,
c'est
pas quand.
C'est tout
pourquoi
suite.
Finalement Emmanuel Macron a voulu tout de suite revenir dessus, pourquoi il a
Aurélie vous l'a dit aussi, parce qu'il était sur le point de perdre la confiance qu'il commençait à nouer avec les Français. C'est gravissime. Il a dû se rappeler, en 1999, Laurent Fabius était en conflit avec Lionel Jospin sur la politique d'impôts, la politique fiscale et de charges à mener. Jospin augmentait. Et Fabius avait fait une tribune dans Le Monde où il avait eu cette formule. Vraisemblablement, la droite ne nous battra pas en 2002, elle ne sera pas en état. En revanche, la gauche peut être battue par les impôts et les charges.
Je pense que peut-être qu'il se souvenait de son expérience de conseiller à l'Élysée en 2012 avec François Hollande. Ça l'a peut-être aidé d'ailleurs.
J'ai lu une interprétation que j'ai trouvée très intéressante cet après-midi, qui dit que finalement ce qui aurait opposé Macron et Édouard Philippe, c'est que Édouard Philippe, ne voulant pas, avoir une purge budgétaire sur la dépense trop forte, a cherché à reporter éventuellement, ou même dans son subconscient, certains impôts, de manière à ne pas avoir à être trop dur. Et que finalement, ceux qui disent « non, il faut y aller à fond sur la réforme », veulent à la fois donc des baisses d'impôts significatives, mais comme ça voudra dire moins de recettes, ça va vouloir dire également qu'on va aller plus fort sur la baisse de la dépense.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h50, c'est Agathe Mahuem.
Donald Trump applaudit ce soir la transparence dont fait preuve selon lui son fils, Donald Trump Jr., qui a publié cet après-midi des emails au sujet de son rendez-vous avec une avocate russe. Il admet donc avoir volontairement rencontré cet émissaire de Moscou qui lui promettait des informations supposées compromettantes sur Hillary Clinton. Rebondissement donc dans cette affaire d'ingérence russe dans la course à la Maison Blanche. La Cour de cassation ouvre la voie à un procès dans l'affaire Karachi en confirmant le renvoi en correctionnel des 6 personnes mises en examen. Dans le volet financier de cette affaire, elle concerne, je vous le rappelle, le financement présumé occulte de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 1995. Les 6 républicains qui ont reçu une convocation d'exclusion restent ce soir au sein du parti. D'Edouard Philippe à Thierry Soler, des responsables pointés du doigt pour leur nouvelle étiquette des constructifs. C'est une commission spéciale qui statuera sur leur sort cet automne. En attendant, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu sont démis de leurs fonctions exécutives.
Paris aura bien ses Jeux Olympiques, reste à savoir quand, 2024 ou 2028. Mais la première étape, en tout cas, a été validée ce soir par le CIO, le Comité International Olympique à Lausanne. Et puis, il n'y a plus aucun Français à Wimbledon. Adrian Manarino a été battu cet après-midi par Novak Djokovic en seulement 3 sets. À noter aussi, Venus Williams qualifiée, elle, pour les demi-finales. Elle a battu Yelena Ostapenko, la championne de Roland-Garros.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors la chanson disait l'été sera chaud, l'été sera fiscal aussi. Alors est-ce que fiscal c'est chaud, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça intéresse tout le monde en ce moment parce que c'est vrai qu'il se passe des choses, notamment au niveau des économies. Pascal Blanchard, il y a Gérald Darmanin aujourd'hui qui a annoncé que l'État économisera 4,5 milliards d'euros tout de même sur son budget. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il veut montrer l'exemple ?
Oui, puis qu'il a annoncé des choses qui nous ont d'ailleurs tous fait rire ici. Je pense qu'il faut qu'on assume tous. Quand on a vu que ce sera notamment sur les moyens de fonctionnement et notamment les voitures que les économies vont se faire, on se demande s'ils vont enlever les chauffeurs, en fait. Parce que je vois pas quelle économie on peut faire. Où on supprime les voitures, où on supprime les chauffeurs, non, mais
là,
on fait.
Là, on prend vraiment les gens pour des imbéciles. Voilà. Alors, 4 milliards et demi voilà, avec des frais de fonctionnement. Et une revue des voitures de fonction, non, c'est pas possible.
Il y a un décalage absolu. Ça veut dire que soit ils n'ont pas du tout préparé leur dossier avant de faire des déclarations sur ça, ça veut dire qu'ils se doutaient pas qu'il y avait une dette en arrivant au gouvernement et qu'en 15 jours, 3 semaines, ils n'ont pas eu le temps de préparer le dossier. On s'en doute pas. C'est autre chose. Deuxièmement, soit ils n'ont aucune idée où est-ce qu'ils vont faire les économies, mais je pense qu'ils le savent, ou ils se disent, on va attendre le cœur de l'été pour commencer véritablement à poser les jalons de ce que vont être les économies. Et ça va être ministère par ministère, parce que ça va être sanglant. Ça va être sanglant. Oui. 4 à 5 milliards en cours d'année, comme ça, alors qu'on sait en plus que sur certains ministères, ça a joué très très fort dans les premiers mois de l'année. On le sait toujours, une année électorale, que ça se passe comme ça. Les économies vont être drastiques. Et au-delà des mesures qui vont être prises, c'est ça qui va poser les problèmes aux Français en novembre-décembre. Quand on va découvrir les mesures qui vont être prises sur le budget de cette année. Je serai aujourd'hui responsable associatif, je serai extrêmement inquiet par rapport à certains ministères. Je serai responsable sportif, je serai extrêmement inquiet.
On sait déjà que le ministère des Affaires étrangères va couper par deux l'aide à certaines associations dans le domaine du développement.
Mais on le sait aussi sur la politique de la ville, les inquiétudes sont immenses. Sur les programmes urbains qui vont avoir lieu, parce qu'on sait très bien que les reports peuvent être facilement faits en termes de masse financière, c'est-à-dire sur le fonctionnement de haute administration. Ce qui est très important à dire, qui touche des tas de questions sur la santé, sur l'aménagement du territoire, sur la jeunesse, c'est des questions où les gens vont être directement impactés. Alors on va se dire, c'est pas grave immédiatement, mais si c'est grave. Ça veut dire que tout un tissu qui est
sur le long terme,
mais pas que sur le long terme,
à court terme,
à court terme sur des modes de fonctionnement cette année.
Il faut tenir les 3% avant
la fin de l'année.
C'est le 31 décembre le gong là pour l'instant.
Juste vous le dire en deux mots, une association qui attendait peut-être 100 000 euros cette année, qui va découvrir en septembre qu'elle n'aura que 70 000, c'est peut-être 10, 15, 20 manifestations qui en fin d'année seront pas faites. Ça veut dire que directement là, sans que les Français soit touché immédiatement, mais en second couteau, ça va être dévastateur et on va surtout pas l'apprendre facilement. On va le découvrir dans le mode de fonctionnement de la vie publique.
Aurélie Motarivet, c'est vrai que le chiffre est quand même très impressionnant et c'est vrai qu'on n'est pas encore, on ne sait pas exactement encore. C'est vrai qu'il y a toujours un problème de chiffrage un petit c'est peu, sûr. Comme je pense à Nicolas Hulot
c'est
par
assez
exemple.
Abstrait,
voilà, il y a toujours voilà des chiffres qui ne sont jamais là. C'est ça aussi ce qu'on attend finalement du concret.
Je pense que en termes de communication, en tout cas, ce sur quoi il faut être très attentif et faire attention, on l'a vu avec la loi moralisation politique qui au fond a été tuée dans l'œuf avec les affaires médiatiques Ferrand et Bayrou. Quelque part, c'est un peu raté. Là, effectivement, c'est très dangereux, je trouve, d'annoncer des chiffres précis et des mesures, parce que s'il n'y a pas de correspondance in fine, ça va être contre-productif en termes de communication.
Surtout plus que des mesures, il a annoncé ce qu'il ne ferait pas. Parce que c'est assez curieux. Il dit, je ne touche pas aux effectifs de fonctionnaires, je ne touche pas aux minima sociaux,
sociale,
je ne touche pas
aux collectivités
locales, qui, on le sait, sont des grandes mangeuses de crédit. Alors, vraiment, il reste effectivement les voitures, les chauffeurs.
Non, l'équation budgétaire va vraiment être très compliquée, parce que déjà, il y a celle de cette année. Alors, on peut quand même, de ce point de vue-là, aussi reconnaître que, comme le disent un certain nombre de gens, le dernier budget du quinquennat de François Hollande n'était peut-être pas totalement sincère.
On le savait, Gilles Garrez avait même donné le chiffre.
Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est qu'aurait fait François Hollande si finalement les choses avaient marché et qu'il avait été réélu, comment il aurait fait lui-même pour...
Ils ont rétro-pédalé
sur le... Il n'aurait pas demandé l'audit de la Cour des comptes. Voilà, déjà pour commencer. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que l'année prochaine, étant donné qu'il y a un très grand nombre de réformes qui sont mises en place, et que parallèlement, donc, comme on l'a dit, il y a tout un axe qui est sur la poursuite et l'amplification des baisses d'impôts, ça va être très difficile pour le gouvernement, et tout le monde le dit, la fin 2017, c'est compliqué, la fin 2018, c'est encore beaucoup plus difficile.
Et donc là, il y a une équation budgétaire pour Emmanuel Macron qui est redoutable.
Par rapport à Bruxelles, il n'y a pas le choix. La France doit donner le sentiment, elle ne peut pas redemander une troisième fois un report.
Oui,
puis
surtout qu'elle est en train de préparer. Elle est presque le pays qui a le plus de déficit.
Avec l'Espagne, avec l'Espagne, les deux derniers pays.
On est les deux derniers pays qui sont au-dessus de
3%. Pas. Donc, ce qu'il faut rendre compte, c'est que là, il y a une pré-négo de ce qui va se passer avant la fin d'année avec Bruxelles. Il va falloir éviter la sanction définitive.
C'est assez difficile d'être exemplaire en Europe avec Angela Merkel.
Allez, ça doit se terminer. Les informés de France Info, merci beaucoup à Pascal Blanchard d'être passé ce soir. Merci Aurélie. Motarivé, Christophe Alix, la Une de Libération demain.
Eh bien demain, nous nous intéressons à la question des vaccins. Ah, et des vaccins obligatoires.
Et la Une du Figaro, Julie Vintraube.
Je crois que c'est les JO enfin de retour à Paris.
D'accord, très bien. Voilà, on continue en tout cas. Et ça tombe bien, puisque j'imagine, oui, non, je ne sais pas pourquoi, non, pas on pourrait
tout
en parler.
Pas du tout.
Non,
pas du tout, si.
Ah, ça y est, enfin, non, parce bonsoir, que je me suis dit, ça y est, j'ai enfin deviné ce qui pourrait se passer dans cette émission.